Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et l'on retrouve Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Ravi Stéphane de te retrouver en cette rentrée.
Ravi aussi parce qu'on a pris un peu de retard. Mais
nous voilà.
Absolument.
Bon alors c'est parti, on reconduit ces interviews qui nous font découvrir la bande dessinée, leurs auteurs, leurs scénaristes, leurs dessinateurs. Qui est l'invité de ce nouveau Bulle d'Histoire ?
C'est un gentil garçon, a priori, mais qui écrit des histoires horribles. C'est Patrick Mallet, qui est scénariste d'une série qui s'appelle Les Sansons et l'amateur de souffrance. Donc avant de raconter cette histoire, qui est une triste histoire de bourreau, Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes, d'où vous venez ?
Ouais, bonjour, oui. Alors, je suis donc né à Genève, en Suisse, en 1970. Et je suis monté à Paris faire des études. Et je suis resté depuis en France. J'ai une carrière d'auteur de bande dessinée en tant que scénariste et dessinateur. J'ai commencé à dessiner et à écrire mes histoires. J'ai par exemple fait une espèce de préquel de Moby Dick qui s'appelle Acab en 4 volumes. Mes scénarios ont tendance au début à se baser un petit peu sur des trucs un peu littéraires, des bouquins, Casanova, Moby Dick, etc. Et puis au final, je commence à écrire mes propres histoires, et je suis devenu scénariste, mais aussi dessinateur pour d'autres, avec Fouché, qui est paru dernièrement, Nicolas Juncker au scénario, aux arènes.
Donc on vous connaît un petit peu mieux, on va parler de cette série, donc Les Sansons et l'amateur de souffrance, donc 3 volumes qui viennent de sortir, le dernier volume vient de sortir. Les Sansons, c'est une dynastie de bourreaux, donc on n'est pas habitué maintenant à parler de bourreaux, mais c'est des gens très connus, qui ont une grande importance dans l'histoire de France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette famille qui est très spéciale ?
Oui, alors effectivement, moi je la connaissais pas non plus avant de m'intéresser vraiment à cette histoire-là. On connaît surtout le quatrième Sanson, Charles-Henri, de mémoire, qui est celui qui a guillotiné donc Marie-Antoinette Louis XVI et qui est passé par tous les épisodes de la Terreur. Donc c'est surtout lui qu'on connaît généralement parce que c'est celui qui a eu entre guillemets malheureusement le travail le plus important. Après c'est vrai, c'était donc une dynastie, donc il y a eu 6 bourreaux de père en fils. Voilà, et moi je me suis intéressé au début, comment on devient bourreau et comment on transmet ce terrible métier.
Alors comment on devient bourreau ?
Alors,
c'est pas un métier d'avenir, mais...
Non, le premier bourreau, Charles Sanson, lui, de la famille, il est devenu bourreau par obligation. Il se trouve qu'il est tombé amoureux de la fille d'un bourreau, il ne le savait pas, et donc son beau-père lui a dit, maintenant tu épouses ma fille après l'avoir déshonorée, donc tu n'as pas le choix, et en plus je t'apprends mon métier. Ça commence comme ça.
Oui, parce qu'on est bourreau de père en fils et c'est une sorte de malédiction. Est-ce qu'on ne peut pas échapper à son destin ?
Alors oui, c'est intéressant. C'est sûr que là, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Quand ça vous tombe dessus, c'est une catastrophe. Le beau-père en question, lui, n'avait qu'une fille, donc pas de descendant. Donc il s'est arrangé effectivement pour que sa charge retombe sur quelqu'un d'autre par le biais de sa fille.
Donc c'est une malédiction, mais c'est aussi un métier. Et on découvre, c'est pas un livre sur le métier de bourreau, mais on découvre que c'est un métier, ils sont payés, ils gagnent de l'argent, ils ont des hôtels particuliers, ils ont aussi des domestiques, donc ils doivent sans arrêt aller réclamer de l'argent auprès de l'État pour payer tout ce petit monde.
Oui, effectivement, alors là vous faites référence effectivement au moment où ça devient très compliqué pour le quatrième, je crois justement, Sanson, qui a presque trop de travail durant la Révolution puis la Terreur, et il faut des assistants, il faut plusieurs, enfin pas plusieurs guillotines, mais je crois qu'il faut des lames, il faut entretenir le matériel, il faut des charrettes, il faut donc des animaux pour tirer la charrette, et ça devient une espèce de casse-tête parce que tout ça coûte évidemment de l'argent. Et oui, dans la bande dessinée on voit le Sanson aller réclamer au roi plus d'argent parce qu'il n'y arrive plus.
Alors il y a un autre personnage un groupe de personnages dans votre série, ce sont les amateurs de souffrance. Donc là, on passe de l'histoire, j'allais dire, véridique, à une part un peu fantastique. Qui sont les amateurs de souffrance ? Parce que vous me disiez juste avant de rentrer en studio qu'ils avaient vraiment existé.
Oui, effectivement. Alors moi, j'en fais un personnage fantastique, presque un espèce de pré-vampire ou proto-vampire, parce qu'il vient là pour se nourrir du sang symbolique des exécutions. Mais il s'est trouvé que j'ai pu remonter, grâce à une revue qui s'appelle Le Visage Vert, il y a eu un article qui m'a pointé du doigt le fait que les amateurs de souffrance étaient effectivement des personnes qui voyageaient de ville en ville pour assister aux exécutions. Alors c'était évidemment principalement des gens fortunés, qui devaient quand même avoir un certain penchant pour la chose. Je ne dis pas qu'ils faisaient que ça de toute leur vie, mais c'était apparemment une coutume relativement fréquente pour eux, en fonction des supplices, de s'y rendre, les uns après les autres.
Alors, vos amateurs de souffrance, ce sont des personnages fantastiques. Mm-hmm. Dites-nous un peu qui ils sont, parce qu'ils sont immortels. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de venir assister à toutes ces exécutions ?
Bon, alors oui, alors là, on est effectivement en train de bon, on va spoiler un peu hein, pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu, mais c'est vrai qu'il y a un côté où, alors c'est ça qui est intéressant. Moi, je les conçois pas vraiment comme des immortels, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de malédiction, c'est qu'ils vivent effectivement plus longtemps que nous, tant qu'ils ont de la souffrance à se mettre sous les yeux. Ça les fait, entre guillemets, enfin même plus qu'entre guillemets, ça les fait rajeunir. Mais le pendant de tout ça, c'est que la vie qu'ils ont gagnée comme ça, ils la reconsomment quasiment encore plus vite. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est pas bénéfique, c'est pas une immortalité joyeuse, c'est morbide, c'est triste, et j'aime bien parce qu'à un moment, dans un des albums, j'arrive à faire dire un personnage qui pourtant a été complètement sous la coupe de ces gens-là, j'arrive à lui faire dire on arriverait presque à les plaindre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est assez ambivalent, en fait.
Oui, parce qu'ils courent après les exécutions, c'est extrêmement triste pour eux, finalement.
C'est triste dans le sens où pour eux, c'est le seul moyen d'échapper à la mort. Et c'est vrai que je me suis débrouillé pour qu'il y ait ce côté vraiment, voilà, cercle vicieux infernal.
Alors, on spoil un peu, mais on ne va pas tout dire, mais ce n'est pas très grave, parce que l'histoire est tellement prenante que dès qu'on a ouvert le premier album, on a envie vite de savoir ce qui va se passer au fur et à mesure des pages. Mm-hmm. Vos amateurs de souffrance, c'est aussi des personnages qui vont conduire l'histoire de France. Ça, j'ai trouvé ça fascinant et assez réjouissant, presque jouissif.
Alors, moi, je suis très content qu'on puisse enfin en parler, parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément dans les critiques. Mais moi, alors, c'est vraiment ce qui m'a quasiment le plus intéressé. C'est le moment où j'ai compris que je pourrais, effectivement, raconter mon histoire avec un petit H dans la grande histoire avec un grand H. Et là, je me suis vraiment fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, alors, je spoil un peu, mais la Révolution française, en fait, est initiée à la base par un amateur de souffrance, simplement pour une histoire de vengeance. Enfin, il est capable de manipuler l'esprit de certaines personnes, et en manipulant l'esprit de bonnes personnes au bon moment, en fait, il fait basculer l'histoire dans le sens qu'on lui connaît.
C'est même plus que ça, parce qu'ils sont à l'origine quasiment de la Saint-Barthélemy, de l'assassinat d'Henri IV.
Ouais, alors effectivement, après, une fois qu'on a ouvert cette porte-là, c'est du petit lait, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait, quoi. Salem aux États-Unis, c'est eux, la Saint-Barthélemy, c'était eux, Ravaillac, tout est de leur faute.
Faut qu'on parle un peu vous n'êtes pas dessinateur de cette série, mais le dessin fait beaucoup, en plus de l'histoire, pour l'intérêt et le charme de ces albums. On va citer le coloriste tout à l'heure, parce que le coloriste a fait, je trouve, un travail absolument époustouflant. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'ambiances qui changent, il y a beaucoup de détails, c'est assez fantastique. Comment se passe le rapport entre le dessinateur et le scénariste quand on commence à arriver à des histoires un peu terribles ?
En fait, au début, on ne se connaît pas, Boris Beuzelin et moi, donc on a été mis ensemble par l'éditeur, et puis Boris a lu le scénario, il a tout de suite accroché à l'histoire, donc après, la collaboration, elle est lancée. Et ça s'est très bien passé, heureusement, et parce que ça fait, on a travaillé dessus pendant 6 ans avant de voir les albums enfin sortir. Il n'y a eu aucun moment où on s'est pris la tête ou disputé. Ça, c'était assez génial. Pour Boris, c'était une expérience assez nouvelle parce qu'il n'était pas forcément très habile dans l'historique. Donc, il a dû faire des recherches et tout. Donc, ça a été compliqué. Puis, en fait, très vite, il est là-dedans comme dans des pantoufles. Enfin, c'est même moi, j'étais soufflé par la facilité avec laquelle ils pouvaient retranscrire les personnages, les costumes, les décors. Donc non, c'est vraiment une super collaboration.
Et comment on fait pour vivre pendant 6 ans avec à la fois une famille de bourreaux et des amateurs de souffrance ?
En fait, ça c'est presque à Boris qu'il fallait poser cette question-là, parce que c'est lui qui a vraiment vécu tout ce temps par le dessin. Moi, en tant que scénariste, mon boulot, entre guillemets, il est plus court, même si après, je reste là pour accompagner le dessinateur tout au long des différentes étapes, le storyboard, les différentes validations. Mais c'est vrai que moi, il y a eu des moments où j'ai dû me replonger dans mon scénario pour des petites histoires de cohérence, des choses comme ça. Ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est pas quelque chose que j'avais oublié, mais c'est vrai que... Alors, j'ai effectivement vécu pendant quelques mois avec cette histoire-là de manière assez dense, en ne pensant quasiment qu'à ce truc-là, qu'à la cohérence de mon histoire, à toutes les cruautés que je pouvais faire à mon amateur. Et c'est vrai que Boris, pour lui, ça a dû être plus long quand même, hein, sur 6 ans.
Alors, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que le bourreau écrit il se passe un journal familial de père en fils, de bourreau en bourreau.
Oui.
Est-ce qu'ils ont laissé des traces ? Est-ce qu'ils ont laissé des écrits ? Est-ce que c'est un jeu scénaristique qui permet de conduire aussi l'histoire ?
Donc il n'y a pas de journal effectivement des Sansons sur l'amateur de souffrance, mais il y a les mémoires des Sansons qui ont été commanditées, sauf erreur. On a demandé au dernier des Sansons d'écrire l'histoire de sa famille. Et donc, je crois qu'il l'a fait aidé par un écrivain, sous réserve, mais je me demande s'il n'y a pas Balzac qui aurait un petit peu trempé là-dedans. Il se trouve qu'on a à disposition maintenant, effectivement, un récit, Mémoire des Sansons, où le gars revient sur l'historique de sa famille. Et moi, j'adore ça parce que j'avais des bouquins très précis sur les Sansons, des trucs très historiques, voilà. Mais j'avais aussi le journal des Sansons qui était beaucoup plus... complètement subjectif, très porté sur le côté un peu très humaniste des bourreaux. Mon ancêtre s'évertuait aussi à soigner des gens et pas seulement à les décapiter. Et moi, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai toujours voulu faire dans cette histoire des Sansons, je voulais en faire des héros et pas des personnages méprisables ou abjects. Ça, ce rôle-là, c'était pour l'amateur. Moi, je voulais que les Sansons aient le beau rôle, en fait.
Ils font leur travail, j'allais dire. Il y a
exactement,
pas de,
ouais.
Ils essaient même de le faire très bien à chaque fois.
Vous avez tout à fait raison, c'est essentiellement ça. Ils font leur boulot. La torture, c'était réservé avant. C'était fait au Châtelet. Eux ne faisaient qu'appliquer la loi. Alors la loi était des fois abominable, abjecte, tout ce qu'on veut, mais ils avaient la sentence à exécuter. Et effectivement, ils s'en acquittaient en essayant de faire le moins de mal possible.
Oui, parce qu'ils avaient aussi la sentence du public. C'est une chose que je connaissais, qui est bien rendue, c'est que ces exécutions sont publiques, et le public juge quasiment le travail du bourreau.
Là, on est vraiment dans une autre époque, enfin, quoique. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, si le travail était mal fait, on n'était pas content, quoi. Alors que c'est quelque chose d'abominable qui se passait sous nos yeux. Mais il y avait aussi un côté presque éducatif, où ces mises à mort étaient censées éduquer les gens, leur apprendre que voilà, faut pas voler, faut pas tuer, sinon voilà ce qui va vous arriver. Bon, a priori, ça marchait pas très bien, mais il y a ce côté-là où si la sentence, si c'était raté, mais c'est marrant parce que ça pouvait être raté dans les deux sens, c'est-à-dire que si c'était mal fait, trop rapide, qu'on n'avait pas eu son content de trucs, alors on n'était pas content. Et en même temps, il y a des récits où si la décapitation se passe mal, s'il faut s'y reprendre à 3-4 fois pour couper une tête à la hache, je m'excuse d'être un peu dans les détails, mais là aussi, les gens supportaient pas. Il y a un moment, c'est très étrange, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il fallait réussir, il fallait pas frustrer, et puis il fallait pas non plus que ça vire dans un truc abominable, sinon les gens ça leur plaisait pas, quoi.
En tout cas, c'est vraiment bien raconté et bien, comment dire, vous faites bien ressentir tout ça dans la série. Je voudrais aborder deux choses pour finir un peu. La première, c'est les enfants, parce qu'il y a beaucoup de pages, beaucoup de planches sur les enfants de bourreaux essentiellement. Je sais pas si vous aviez lu ce manga qui s'appelait Innocent.
Sur les Sansons,
ouais. Pareil, il y a une histoire d'éducation. Bon, lui, le dessinateur japonais, prend un autre angle.
D'accord. Alors, non, j'en ai évidemment entendu parler. À l'époque, je n'ai pas voulu le lire pour ne pas me laisser influencer. Et puis, je dois confesser que j'ai un peu zappé maintenant, mais je vais essayer de m'y remettre.
Mais en tout cas, il y a vraiment un gros travail sur les enfants, parce que ces enfants, il faut leur expliquer le travail de leur père, leur expliquer qu'un jour ou l'autre, ils vont devoir
passer par là,
faire la même chose. Ouais. Et l'importance des mères et des belles-mères, là aussi, transmet tout ça. Ah, mais c'est vrai ou c'est vous qui avez inventé ?
Non, je ne l'ai pas inventé. Après, dans quelle mesure moi, j'ai juste retranscrit ce que j'ai lu, compris et apprécié de cette famille. C'est vrai que... j'ai des enfants. Évidemment, c'est des questionnements qui me préoccupaient. C'est qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants quand on a ce métier-là ? Comment on le transmet ? Quand est-ce qu'on le transmet ? Je trouvais très important. Moi, j'étais très content. J'ai pas inventé tant que ça. Hein. Les personnages féminins étaient là. Il y a vraiment des mères, des épouses, puis des mères qui deviennent des grands-mères, puis qui sont là pendant un bon moment, puis qui tiennent la famille parce que c'est une entreprise en fait. C'est pas qu'un métier abject. Il y a de l'argent qui doit rentrer. Donc compensations financières. À ce métier difficile, donc c'était quelque chose qu'on ne lâchait pas en fait. On obligeait, comme vous dites, les enfants les fils devaient prendre la succession de leur père, sinon ça partait à un bourreau de tutelle, je crois, puis après la charge risquait de vous échapper, puis de passer dans une autre famille, et ça aurait été la catastrophe, parce que c'était quand même quelque chose qui rapportait de l'argent.
Bon, il faut dire aussi que les bourreaux ne sortent pas indemnes de leur métier, puisqu'il y en a un qui est à moitié paralysé. Moi, j'ai découvert un bourreau de fin 19e qui ne supportait plus la couleur rouge, par exemple. Donc, ils ont aussi des séquelles. Ce n'est pas juste un métier. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Je pense malheureusement. Effectivement, il y a un Samson qui a des paralysies tout d'un subite et puis momentanées. Enfin, c'est très bizarre. Il y a effectivement le quatrième Samson, là, celui qui est passé par toute la terreur. Je crois qu'à la fin de sa vie, moi, je le montre en train de couper au sécateur ses roses avec un petit rictus. Enfin, je pense que ça ne laisse pas indemne le fait de devoir tuer pendant tous les jours presque. Enfin, c'est vrai que là, sous la terreur, j'ai voulu lister à un moment sur une page le nombre de personnes qui étaient tuées par jour. Combien il y avait de personnes dans chaque charrette. Enfin, et on arrive à des chiffres qui donnent le vertige. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient simplement dénoncés. Enfin, pour Dieu sait quelle raison, on coupait des têtes. Encore pire que la reine de cœur d'Alice au pays des merveilles. C'est la volonté d'éradiquer le plus de gens possible. Tout ça pour préserver la sienne.
Pour finir, la lecture de ces albums, au bout d'un moment, il y a des moments où on est mal à l'aise parce qu'on se projette dans l'amateur de souffrance. Et effectivement, on est tous fascinés par les accidents, par les feux, les incendies, les choses comme ça. Et ça, c'est une résonance que chacun peut ressentir. Moi, je ne m'arrêterai plus à regarder un accident de la route après avoir lu vos albums, par exemple.
Ah bon, c'est bien. C'est le côté thérapeutique de ma série. J'en étais pas conscient à ce moment-là, mais ça me fait très plaisir. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça, on est tous des amateurs de souffrance, parce qu'à un moment ou à un autre, on succombe à une espèce soit de plaisir pervers, soit de pulsion. Alors, moi, mes amateurs, ils sont maudits en fait, on s'en apercevra vers la fin. Eux, ils ont pas d'échappatoire possible. Nous, je pense qu'on peut tout à fait arriver à résister, et tant mieux si une bande dessinée peut aider les gens à devenir meilleurs. C'est vraiment bien.
Mais je vous remercie beaucoup, on s'est dit vraiment beaucoup de choses. J'espère que ça donne envie, ça doit donner envie, et je pense que ça donne envie surtout de lire Les Sansons et L'Amateur de souffrance, les trois volumes donc scénarisés par Patrick Mallet.
Les Sansons et L'Amateur de souffrance. Trois volumes, donc ouais. Alors, Patrick Mallet au scénario, Boris Beuzelin au dessin, Sylvain Lauprêtre à la couleur. Et c'est aux éditions Vent d'Ouest pour 17,50 €. Patrick Mallet, une petite curiosité... Mais finalement, on dit souvent que la tête du condamné continue de parler après la décapitation. C'est vrai, ça ?
C'est intéressant. Ouais, j'ai été dans le fantastique, mais je n'ai pas été dans ce biais-là. Mais j'aurais pu. Et...
Pas de dessin là-dessus, alors.
Non.
Mais
beaucoup de têtes coupées, par contre.
Oui. Il y a des morts qui témoignent après, dans votre...
Voilà, c'est ça.
Oui.
Ils laissent des traces.
C'est des témoignages post-mortem.
Oui, c'est ça. Le journal des Sansons reste un témoignage sur les exactions de l'amateur.
Et en tout cas, une très belle... bande dessinée à découvrir et comme vous l'avez dit qui permet aussi d'en savoir plus sur l'histoire de France et peut-être des faces cachées qu'on ne connaît pas et qui sont sûrement encore à défricher. Merci beaucoup Patrick Mallet, merci Stéphane.
Moi, c'était un plaisir Julie.
Bon bien écoute, on se retrouve très très vite.
Très très vite.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.